Et il est 18h30, tout pile, à Paris, l'heure du débat du soir avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, ce soir nous évoquons le boycott des produits américains dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, car les initiatives se multiplient. Alors, elles sont parties du Canada, où le Premier ministre sortant, Justin Trudeau, a officiellement appelé à choisir le Canada au moment de faire ses courses. Elles se sont propagées en Europe du Nord, ces initiatives. En Norvège, ainsi, la première compagnie de carburant dans les ports a annoncé qu'elle cessait de travailler, de ravitailler les navires de la marine américaine. En France, la page Facebook boycotte États-Unis, achetés français et européens ne cessent d'engranger de nouveaux abonnés. Toutes ces initiatives ont un seul but, celui de protester contre la politique de Donald Trump. Notre question ce soir, est-ce que ce boycott peut être efficace? Jusqu'où peut-il aller? Avec quelles conséquences? Quelles autres méthodes sont susceptibles de porter un coup à cette guerre commerciale lancée par le président des États-Unis? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Estefania Santacrevasu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'ESSEC et vous avez publié un livre grand public sur la globalisation et le retour au protectionnisme. Je vais donner le titre en français. La nature des biens et les biens de la nature, pourquoi l'antimondialisation n'est pas la solution. Face à vous, Anne-Sophie Alsif, bonsoir.
Bonsoir.
Chef économiste de BDO France, qui est un cabinet de conseil économique et professeur d'économie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Notre troisième invité est en ligne avec nous, Édouard Rousset. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur français, mais vous êtes également administrateur de cette page Facebook boycottée. Je disais les États-Unis, le titre exact, c'est boycotter USA, acheter français et européen. Vous comptez déjà 18 000 abonnés. On va évidemment en parler dans ce débat du jour. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI. Pour débuter, je vais commencer par ce qui fait l'actualité ce soir. L'action de Tesla dévisse complètement à la bourse de New York, moins 8% ce lundi. 700 milliards de dollars de pertes boursières qui sont évoquées pour Tesla. Évidemment, Tesla, c'est Elon Musk qui travaille aux côtés de Donald Trump. D'où ma première question à Anne-Sophie Alsif. Est-ce que là, on peut y voir un premier résultat des campagnes de boycott?
Alors, je dirais oui, mais c'est à mon sens qu'un élément. C'est vrai que l'on voit que la problématique de acheter européen ou acheter américain, c'est quelque chose qui date d'avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Hein. C'est vraiment une politique qui avait déjà été mise en œuvre et par Barack Obama et poursuivie par Joe Biden d'une manière assez appuyée. Alors, moins spectaculaire, avec moins de flamboyance, on peut dire, mais tout aussi importante dans l'idée d'acheter aux États-Unis, de produire aux États-Unis. Et ça avait beaucoup impacté les entreprises américaine. Là, c'est vrai que depuis que nous avons Donald Trump, alors bien sûr, il y a les droits de douane, il y a les déclarations d'Elon Musk, donc on est vraiment dans une offensive qui est beaucoup plus frontale, même si encore une fois, elle existait avant, et aussi dans une guerre de communication. Et là, encore une fois, on le voit, c'est sûr que Tesla, alors il y a un ralentissement de l'achat des véhicules électriques, ouais, partout dans le monde, également aux États-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe, on voit ce ralentissement, et donc Tesla est très impacté. Alors après, c'était aussi une des voitures qui était le plus achetée, donc forcément, quand vous avez une baisse, c'est normal que ce soit Tesla qui soit
baisse,
plus impacté, mais notamment la baisse en bourse. Là, en effet, alors je pense que c'est pas qu'à cause des droits de douane, hein, c'est peut-être aussi l'ensemble du personnage qui est peut-être un petit peu dénoncé. Eh bien, ça a des résultats et ça montre que les investisseurs sont inquiets, qu'il y a vraiment, alors je dirais pas que c'est le résultat du boycott, mais globalement, qu'il y a vraiment l'envie de sanctionner et de dire ces entreprises-là américaines qui nous attaquent, eh bien, on veut avoir une réponse et on répond aussi par la communication comme eux.
Est-ce qu'on peut être étonné que ce soit aussi que cette réponse ait autant d'effet? Alors, il n'y a pas que ça, vous avez dit. C'est pas que, faut pas y voir que le résultat des campagnes de boycott, mais les baisses de ventes de Tesla en Europe en janvier, c'est moins 45%.
Oui. Alors, c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Donc, en effet, il y a le contexte général où on achète moins de voitures électriques. Et donc, Tesla, qui était l'un des leaders sur le marché européen, eh bien, on perd en premier les frais. Mais aussi, comme ces derniers jours, ça ne vous a pas échappé, on est quand même dans une politique qui est très agressive, et bien là, le consommateur se dit qu'il a un pouvoir, qu'il doit l'utiliser, qu'il doit aussi utiliser les réseaux sociaux, d'où la mobilisation pour acheter français et aussi européen. Bien évidemment qu'on est plus, à mon sens, dans une réponse politique que juste économique.
Alors, on va évidemment, dans un instant, donner la parole à Édouard Rousset, administrateur de cette page Facebook, boycotter USA, acheter français et européen. Mais Estefania Santacrevasu, je veux aussi avoir votre avis sur ces résultats de Tesla et ce qu'ils signifient puisqu'on parle ce soir du boycott des produits américains. Est-ce que le boycott, il peut venir aussi des États-Unis? Parce qu'il y a eu des actions qui ont été menées aux États-Unis concernant justement Tesla. Des bornes de recharge qui ont été incendiées près de Boston. Il y a eu des coups de feu qui ont été tirés sur les locaux d'un concessionnaire Tesla de l'Oregon. Il faudra aussi évoquer, est-ce qu'il n'y a pas un risque de violence d'ailleurs dans le boycott, dans ces campagnes-là?
Effectivement, est-ce que c'est une réponse à une idéologie ou une réponse à un État aux États-Unis? Et on peut voir qu'il peut y avoir des mouvements de boycott des produits de certaines entreprises américaines qui sont proches du président Trump. Et donc, on peut imaginer que pour certaines entreprises comme Apple ou des entreprises californiennes qui n'ont par exemple pas arrêter leur politique de diversité, on peut voir que le consommateur américain a aussi un pouvoir de cibler certaines entreprises qui sont très proches de l'administration Trump et pas forcément de nuire des entreprises qui ne se rapprochent pas autant de cette administration. J'aimerais rajouter peut-être un élément...
Est-ce que le consommateur américain n'a pas plus de pouvoir que le consommateur européen, que le consommateur canadien?
Effectivement, parce
que ça se passe.
Le consommateur européen, en réalité, n'importe pas tellement de voitures américaines. Nous importons énormément de services américains. Donc, je pense que s'il y a des actions de boycott, c'est plutôt dans les services plutôt que dans le commerce de biens. Mais là encore, les services, c'est des services numériques, des services financiers. Extrêmement difficile pour les consommateurs européens, je pense, aujourd'hui, de se désengager de ces services. Voilà, donc,
tout est imbriqué, on va en parler, évidemment. Vous vouliez ajouter quoi?
Je voulais ajouter une perspective historique. Dans les années 30, en juin de 1930, on avait eu un tarif douanier imposé par l'administration américaine. Et c'est intéressant de voir, et des économistes ont étudié l'impact de boycott par des pays comme l'Italie, la Suisse, l'Argentine, l'Uruguay, qui en fait montrent que les boycotts peuvent avoir un impact significatif. À ce moment-là, ça avait été sur la production de voitures américaines. Donc, ce n'était pas Tesla, mais c'était Ford, Chrysler, etc. Donc, on peut voir que le boycott peut servir. Je pense aussi que ça peut être une arme qui est très rapide. C'est une réaction très rapide. Les réactions de la Commission européenne vont être beaucoup plus lentes, elles vont être beaucoup plus dans la négociation. Mais tout de même, ça reste le cas que les voitures Tesla ou le commerce en biens va simplement pénaliser le consommateur européen. Et donc, l'impact agrégé aujourd'hui me semble va être beaucoup plus faible qu'il a pu l'être dans les années 30 où les voitures étaient... beaucoup plus importante dans le commerce américain.
L'autre élément, c'est que c'est vrai que dans les années 30, on avait des chaînes de valeur qui étaient beaucoup moins éclatées. Et donc, la grande difficulté aujourd'hui, on parle de la voiture électrique, on parle souvent des panneaux solaires quand on parle de la Chine, de l'aéronautique, des médicaments qu'on exporte massivement aux États-Unis. Eh bien, c'est vrai que ces produits manufacturiers ont vraiment eu des chaînes complètement éclatées dans le monde entier. On l'a vu à l'époque du Covid, où on parlait déjà de relocaliser la production. Et donc, quand on boycotte, c'est ça toute la difficulté. On parle souvent de Coca-Cola, en fait, qui est souvent produit et assemblé partout en France. Donc, comment boycotter ?
95%, faut le dire, 95% du Coca-Cola qui est consommé en France est produit en France. Ça veut tout dire.
Donc, c'est ça l'idée, c'est comment boycotter pour que la finalité du message passe, c'est-à-dire sanctionner les Américains et pas les travailleurs ou les usines françaises. Et puis l'autre élément, c'était très justement dit, c'est le problème des services versus biens manufacturiers. C'est vrai que nous, on importe beaucoup plus, des États-Unis, on est beaucoup plus dépendant des services. Et donc, c'est très difficile de boycotter les services parce que tout le monde utilise les réseaux sociaux, les services financiers. Donc là, c'est plus compliqué. Mais encore une fois, même s'il y aura sûrement moins d'impact économiquement, la symbolique est forte. Et comme aujourd'hui, on est toujours dans la guerre de communication, notamment avec cette nouvelle administration, eh bien, c'est une réponse aussi sur le même plan à cette politique de communication de l'administration Trump.
En tout cas, les obstacles que vous évoquez, vous y faites peut-être face. Édouard Rousset, administrateur de cette page Facebook, boycotter USA, acheter français et européen. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette page Facebook, comment elle est née, comment elle prospère aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis dans un premier temps, je suis agriculteur dans le Nord et je produis du houblon. Et le houblon, c'est une des denrées qui est largement importée des États-Unis. Donc, je suis déjà un peu sensibilisé au déséquilibre qui existe entre les États-Unis et la France, alors que nous, on peut produire en France, en Europe, du houblon pour des bières locales françaises. Mais c'est surtout depuis quelques semaines, depuis l'accession de Trump, depuis qu'on a tous les matins ces déclarations sont assez erratiques, qui vont un peu dans tous les sens, et surtout dans le sens inverse de ce qu'on pourrait décrire comme des valeurs européennes. Et puis enfin, l'altercation entre Trump et Zelensky, l'humiliation qui m'a poussé à essayer de chercher un moyen, à mon niveau, très modestement, de réagir à ça et d'être en opposition à ça. Et j'ai vu d'autres groupes Facebook qui existaient, notamment dans les pays du Nord, et en France, ça n'existait pas. Donc j'ai créé cette page, c'était un peu quitte ou double, ça pouvait ne pas marcher du tout. Et puis au final, en quelques jours, il y a eu une forte mobilisation, beaucoup de personnes qui ont été heureux de rejoindre ce groupe pour y trouver des alternatives, et puis un peu d'espoir, et puis des encouragements qu'on partage pour trouver des solutions, des alternatives, et puis en fait, chacun à son niveau de passer à l'action, d'être en opposition avec cette politique. On n'a pas forcément voté pour Donald Trump, parce que on n'est pas aux États-Unis. En revanche, on peut, à notre niveau, voter contre sa politique avec notre porte-monnaie. Mmh. Et c'est ça qu'on essaie de partager dans ce groupe.
Alors justement, vous pouvez nous donner des exemples de ce qui est évoqué sur cette page Facebook?
Oui, bien sûr. Proposé. Alors, c'est beaucoup de d'alternatives. En fait, on a une règle dans ce groupe, c'est on ne boycotte pas, on n'appelle pas au boycott si on ne propose pas d'alternatives. C'est vraiment important parce que en France, on a la chance d'avoir un vivier d'alternatives, qu'elles soient dans les produits, dans les services. Et c'est pas le cas de tous les pays. C'est pas le cas de l'Ukraine, par exemple, pour le cas des satellites qui leur permettent d'avoir Internet. On a des solutions en France, et donc il faut présenter des alternatives. Quand on parle d'une alternative à Google, on a Ecosia, on a Quant. Mmh. Quand on parle d'une alternative à WhatsApp, on a Olvid, on a Signal, même si certains des services sont en partie financés par des Américains, il y a quand même la notion d'orienter le portefeuille, notre moyen de consommation, nos moyens vers des solutions qui contribue un peu plus à l'économie européenne.
Mais est-ce que vous avez réussi, à vous passer de ces moyens numériques américains?
Le transfert est en cours. J'ai créé une adresse sur Proton, par exemple, qui est une alternative à Gmail. J'ai créé un compte sur Mastodon, qui est une alternative à X, anciennement Twitter. J'ai enlevé mon compte Airbnb parce que Airbnb et Uber, d'autres entreprises qui ont financé la campagne de Donald Trump, c'est un peu la priorité de ce groupe dans les volontés de ce groupe. C'est un peu la priorité, c'est de boycotter les entreprises qui ont financé la campagne de Donald Trump. Et puis en second temps, c'est bien sûr les services. Et comme le disait votre invité tout à l'heure, c'est donc sur les services, on a une balance commerciale qui est largement déficitaire, malgré ce que dit Trump. On a 109 milliards d'euros en Europe qui est une balance déficitaire sur les services, alors qu'on a des alternatives qui ont besoin d'un peu plus de moyens, qui ont besoin d'un peu plus de projecteurs. Et certaines ne sont pas au niveau, d'autres le sont largement. Je pense à Le Chat, qui est une alternative à ChatGPT, qui marche très bien, qui marche même parfois plus vite que ChatGPT. Et donc, voilà, sur ce groupe, on y trouve des solutions. Mmh. Je reviendrai sur sur la violence dont vous avez parlé tout à l'heure. Évidemment que il y a eu, par exemple, une concession de Tesla qui a été incendiée. C'est pas du tout l'objet de ce mouvement. Il est hors de question que ça, qu'il y ait des appels à la violence. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est que chacun, à son niveau, puisse trouver des alternatives progressivement et se désolidariser de l'économie américaine en commençant par les services et petit à petit. C'est pas tout ou rien. Il faut faire, dans certains cas, la part des choses. C'est notamment le cas de Coca-Cola, qui est devenu un peu le contre-argument, qui est devenu la caricature du contre-argument de ce mouvement de boycott, comme pour discréditer tout le mouvement. Évidemment qu'il y a des emplois, Coca-Cola, McDonald's, qui sont en France. Et ce n'est pas ce boycott-là qu'il faut cibler en priorité. C'est les entreprises américaines et les produits qui sont produits aux États-Unis. Il suffit de regarder, par exemple, dans les codes-barres, quand on est au supermarché, de 1 à 179, quand vous lisez les premiers chiffres du code-barre, c'est que c'est produit aux États-Unis. De 300 à 379, c'est produit en France. C'est une méthode assez simple pour, à son niveau, trouver des alternatives européennes.
Mais Edouard Rousset, je ne peux pas empêcher de vous objecter le fait que votre combat est mené sur Facebook. Ça rejoint les difficultés qu'évoquait Anne-Sophie Alsif de se détourner totalement des produits américains. Évidemment, Facebook, c'est Meta, c'est Mark Zuckerberg, c'est américain.
Évidemment. En fait, dans une guerre, il faut parfois accepter des compromis pour atteindre un objectif. Et cet objectif, c'est d'avoir le mouvement le plus large possible. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas de plateforme européenne au niveau de Facebook qui puisse rassembler autant d'utilisateurs que sur Facebook. Donc, on a créé un groupe Facebook. Évidemment que ça peut paraître un peu cocasse. C'est le cas dans d'autres pays européens. Il y a, si on compile tous les groupes européens, danois, suédois, on a jusqu'à 250 000 membres qui partagent cette même idée de boycott. Et on n'aurait jamais pu trouver ça sur d'autres réseaux alternatifs européens. Je pense à Mastodon, qui est un réseau social type X, qui est décentralisé et qui est régi par le RGPD. Les données ne sont pas envoyées dans des serveurs aux États-Unis et donc les données sont beaucoup plus protégées. Et on n'aurait pas pu faire ça sur Mastodon. Néanmoins, on a créé un compte sur Mastodon pour progressivement permettre aux gens de migrer tout leur réseau sur Mastodon. Il y a plusieurs vagues comme ça. Il y en a une autre, notamment quand Elon Musk a pris le contrôle de X. Il y aura plusieurs vagues comme ça et progressivement, l'objectif, c'est de se désolidariser de tous les services américains et progressivement.
Et en écho à ce que vous dites, je vais citer Jean-Claude Laurent, qui est créateur d'une association qui s'appelle Vote for Ukraine et qui avait dit « ça ne me dérange pas, en évoquant Facebook, d'utiliser l'arme de l'adversaire pour la retourner contre lui ». Et Stéphania Santacreux-Vasus, ça vous inspire quoi ? Est-ce que ce type d'initiative ne peut être que citoyenne ? Est-ce que s'il doit y avoir un vrai mouvement de boycott, il doit venir des citoyens ? Et jusqu'où peut-il aller selon vous ?
Alors, pour ce qui en est des services numériques et de ces plateformes, il y a deux éléments importants à prendre en compte. Le premier, c'est que ce sont souvent des technologies de réseau. Donc, effectivement, ce mouvement citoyen peut être, peut réussir s'il y a une masse critique suffisamment importante qui se détourne de ces messageries et qui va collectivement vers d'autres messageries, ce qui est très difficile. Donc, il faut vraiment une masse critique.
À cause de l'imbrication, encore une fois,
À cause du fait que ce sont des technologies et des biens où la valeur d'y participer dépend du nombre de personnes qui y participent.
Et que c'est difficile, évidemment, d'y participer, parce que ça veut dire c'est comme se détourner de WhatsApp, se détourner de Gmail. On ne va pas se faire citer toutes les entreprises américaines, mais elles sont omniprésentes dans notre quotidien, le numérique, le textile, etc.
Exactement. Et donc, peut-être que là, la réponse n'est pas un boycott individuel qui est extrêmement coûteux. Et qui peut nuire des entrepreneurs, des personnes qui ont des gîtes ruraux, qui vont les louer, etc. sur Airbnb. Mais c'est plutôt peut-être de se tourner vers la Commission européenne, vers la réponse politique, et penser à l'utilisation de taxes contre ces services numériques qui existent déjà en France, la taxe GAFA. Donc essayer d'aller vers des taxations de ces services plutôt que vers un boycott qui a besoin de cette masse critique. Je pense que s'il y avait un événement très disruptif au niveau de la tension entre les États-Unis, l'Ukraine, etc., qui ferait une indignation collective très, très forte, il pourrait y avoir cette masse critique. Il me semble qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là.
Édouard Rousset, vous en avez appelé à la Commission européenne, aux autorités françaises, pour qu'ils relaient votre combat. Est-ce que c'est la responsabilité, selon vous, des autorités aujourd'hui face à la politique de Donald Trump ?
Écoutez, probablement, pour l'instant, on n'a pas du tout transformé ça en mouvement politique. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit l'objet. C'est juste que on voulait réagir et force est de constater que je suis pas le seul. On est aujourd'hui 18 000 et on a créé le groupe il y a une semaine. On est 18 000 aujourd'hui. Il y en aura d'autres qui vont rejoindre le groupe demain. Mais c'est d'abord un mouvement citoyen. Et avant d'être un mouvement, avant d'être une concrétisation politique, on n'avait pas envie d'attendre la prochaine élection pour que des décideurs puissent concrétiser cette volonté-là d'un certain nombre de citoyens. On voulait d'abord agir à notre niveau, et ensuite, bien sûr que le groupe va grandir et il va falloir se faire entendre d'autres manières. Mais ce groupe n'a qu'une semaine. Pour l'instant, à notre niveau, au quotidien, moi, chaque jour, j'enlève un service américain et c'est plutôt ça l'objectif dans un premier temps.
Anne-Sophie Alsif, quand Édouard Rousset dit qu'il n'y a pas de concrétisation politique, est-ce que seule la concrétisation politique peut permettre la pérennité du mouvement, le fait que ce boycott des produits américains puisse être efficace ? Au Canada, je disais, Justin Trudeau, premier ministre sortant, a conseillé de choisir le Canada au moment de faire ses courses. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres dirigeants faire de même ?
Oui, en fait, ça pose des questions qui sont beaucoup plus profondes et qui sont, encore une fois, anciennes. Et c'est vrai que ce mouvement hein, que vous avez animé à très juste titre les remet sur le devant de la scène. Le premier élément, c'est la question d'acheter français et européen au détriment d'autres produits. Rappelez-vous, pendant le Covid, on a eu énormément ce débat pour des raisons aussi écologiques. Hein, et d'ailleurs, dans le secteur de l'agriculture, c'est très important hein, d'avoir des produits qui soient fabriqués plus près du consommateur final pour aussi un impact écologique limité et aussi un aspect pouvoir d'achat pour éviter tous les cycles qui vont de la production au consommateur. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment l'opportunité politique, plus de dire on boycotte. Et là, en effet, hein, si on veut vraiment avoir un résultat, ça passe par de la politique, faire pression sur la Commission européenne, mais c'est vrai que ça prend très long. Mais déjà, l'autre très bonne nouvelle, c'est de dire, eh bien, en fait, il y a une industrie, il y a une agriculture, il y a des services européens et français. Mmh. Là, ce que monsieur a très bien justement cité, je pense qu'il y a beaucoup de vos auditeurs qui ne connaissaient pas, moi-même, je ne connaissais pas tout. Ouais. Et donc, ça met en lumière, si vous voulez, à mon sens, un sens politique. Qu'est-ce qui manque en Europe par rapport à la Chine, à la Russie, aux États-Unis ? C'est ce sens politique. On a fait le marché, on s'est dit, parce qu'on est riche et qu'on ne se fera plus la guerre ensemble, on sera unis. C'est faux. On n'a pas ce sens politique. Et en fait, ces agressions extérieures font et créent un véritable citoyen européen qui dit, oui, on a une industrie en Europe, on a des entreprises européennes. Et donc, bien sûr que je peux boycotter l'entreprise américaine, mais je peux faire aussi un choix vers l'Europe, vers la France.
Mais ce sont les citoyens qui envoient ce message-là. On peut imaginer que ce soit les autorités, d'abord, qui disent en réponse à cette...
Tout à fait. Et il y a des choses qui existent quand même déjà.
Ce lâchage des États-Unis, il y a une désolidarisation qui s'impose.
Il y a des choses qui existent déjà, pour ne pas aller à la commission, où là, c'est beaucoup plus long. Par exemple, en effet, alors bien sûr, il y a la question des droits de douane, mais plus généralement, il y a la question des normes, hein, le protectionnisme des normes, en disant, bah voilà, tel ou tel produit, si ça correspond à telle ou telle norme, je peux le taxer, ou en tout cas, faire qu'il ait un Nutri-Score ou des incitations qui sont différentes. On se souvient notamment au secteur de l'agriculture, hein, où ça a été produit, est-ce que c'est local, est-ce que c'est français. Vous vous souvenez dans la viande. Monsieur est bien mieux placé que moi pour le dire. Aujourd'hui, viande française, enfin, c'est quelque chose qui est vraiment important pour le consommateur. Donc on a des armes comme ça de mettre en avant les produits et la production européenne. Et ça, c'est vrai qu'au-delà du boycott, ça peut être une très bonne nouvelle pour l'industrie européenne.
Est-ce que le boycott des produits américains peut être efficace? Les campagnes de boycott se multiplient. Elles sont parties du Canada, je le disais. Elles pullulent désormais en Europe du Nord, touchent la France. Également, évidemment, en réponse à la politique américaine de Donald Trump, le président des États-Unis. Mes trois invités sont Anne-Sophie Alsif, que l'on entendait, qui est chef économiste de BDO France, le cabinet de conseil économique, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Stéphania Santacrevasu, qui est professeur d'économie à l'ESSEC, auteur de l'ouvrage « La nature des biens et les biens de la nature, pourquoi l'antimondialisation n'est pas la solution ?» Et puisque je disais que ces campagnes aussi touchent la France, on a Édouard Rousset qui est en ligne avec nous et qui est administrateur de la page Facebook « Boycotter les USA, acheter français et européen ». Et Édouard Rousset, je voudrais vous poser la question à présent, puisqu'on a dit à quel point boycotter les États-Unis, il y avait le risque aussi de boycotter la France, parce que tout est imbriqué. Vous n'avez pas peur que ça pénalise davantage les emplois en boycottant les États-Unis? On a dit 95% du Coca-Cola consommé en France. Alors c'est un chiffre qui est parlant, qui est produit en France, mais c'est le cas de tellement de multinationales américaines. Tesla, la plupart des voitures européennes sont produites en Allemagne. Est-ce qu'on se tire pas vous tirez pas une balle dans le pied, le vous et général hein.
Je ne penserai pas dans ces termes-là. Je pense que c'est Donald Trump qui a démarré une guerre économique et d'ailleurs aussi idéologique contre l'Europe. La menace des droits de douane de 25%, c'est ça qui fera du mal à l'emploi. C'est pas le fait de trouver des alternatives françaises, d'inciter les consommateurs à trouver des alternatives françaises, européennes, à des produits services américains, qui fera du mal aux emplois français. Donald Trump pense en rapport de force, il pense en deal. Il s'agit de ne pas se mettre à plat ventre avant même d'avoir commencé. Il s'agit de montrer aussi un peu les muscles. Les citoyens européens s'organisent et il y a un mouvement. Certes, on ne va pas renverser l'économie des États-Unis, mais en revanche, ça existe. Et encore une fois, ça peut se traduire politiquement. J'invite tous les représentants politiques à comprendre, à avoir conscience de ce mouvement-là et à le traduire dans leurs décisions, dans leurs programmes. J'invite aussi les chefs d'entreprise à être transparents, notamment de McDonald's, notamment de Coca. Quels sont les dividendes qui repartent aux États-Unis? Qu'est-ce qui est réinvesti en France? Je suis dans le Nord, il y a un tissu économique, il y a notamment dans l'automobile des entreprises américaines qui ont racheté des entreprises françaises et puis qui, au bout de 5 ans, sont parties avec dividendes aux États-Unis. Donald Trump pense en rapport de force. Alors, il faut montrer les muscles et il faut montrer qu'on s'organise et que nous aussi, on peut avoir des armes dans cette guerre.
Et Stéphania Santacreux-Vazu, on approche doucement de la fin de notre émission. Est-ce que ces campagnes de boycott, elles ne peuvent qu'être limitées, ces campagnes de boycott des produits américains? Est-ce qu'elles ont, entre guillemets, un plafond de verre et que, finalement, pour dépasser ce plafond de verre, ben, c'est répondre aux droits de douane, par des droits de douane, c'est la seule méthode pour répondre à la politique américaine?
Et je pense que oui, et surtout peut-être être dans la négociation. Il me semble que la Commission européenne va d'abord tout essayer pour être dans la négociation avec l'administration Trump, qu'elle l'a déjà fait dans la première guerre commerciale lors du premier mandat de Donald Trump. Mais j'aimerais peut-être rajouter quelque chose, c'est que nous sommes dans la réaction, mais nous devons être dans l'action. Mario Draghi, récemment au Parlement européen, a rappelé que le marché européen était aussi grand que le marché américain. Simplement, on a des barrières internes qui sont non tarifaires. Si on les allégeait, on pourrait unifier le marché commun européen et augmenter la croissance européenne et être beaucoup plus dans l'action, donc se tourner vers nous-mêmes. Rappelons que le partenaire commercial numéro un de la France, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Union européenne elle-même, et c'est pareil pour les autres pays européens. Donc je pense que l'Europe peut aussi être plutôt dans l'action que dans la réaction aux décisions américaines.
J'évoquais, Anne-Sophie Alsif, la difficulté. Est-ce qu'elle demeure pour les dirigeants européens de se désolidariser totalement des États-Unis? Et est-ce que finalement, on touche là le vrai problème?
C'est sûr que c'est un énorme problème puisque c'est nos alliés historiques. Donc c'est vrai que même si cette politique agressive existe depuis plus de 15 ans, qu'elle prend énormément de forme, qu'on l'alerte, qu'on le sait, qu'on a énormément d'indicateurs qui le montrent, là c'est vrai qu'il y a une sorte d'effectivité, de violence verbale et d'agressivité dans la communication qui est très difficile à gérer pour l'Union européenne. Donc là, encore une fois, ce n'est pas l'idée de se désolidariser, mais c'est l'idée de dire, certes, de l'autre côté, on veut un deal, on monte les muscles. Nous aussi, on est capable, parce qu'on a des atouts, comme c'était justement dit, il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied. On a du pouvoir, on peut négocier et essayer de trouver une solution. On ne soit pas tous perdants, puisque à la fin, on est quand même tous perdants avec ce genre de politique.
Vous croyez à une campagne de boycott? On a dit encore une fois, ça pullule. Canada, Europe du Nord, la France.
Oui, je pense qu'avec en plus les réseaux sociaux, les nouveaux moyens qui existent, que ça peut vraiment, vraiment se développer. Bien sûr, au regard de ce qui peut se passer avec cette administration dans la négociation. Et en plus, on est assez étonné.
Ça peut infléchir les actions
peut-être
américaines.
Peut-être pas infléchir, mais en tout cas, c'est un jeu. On est sur la communication comme eux. Et donc, en fait, il y a une réponse. Et très souvent, on voit ce que Donald Trump aime. Il aime attiser et il voit s'il y a une réponse ou pas. Et en fonction de la réponse, il ajuste. Donc là, il y a une réponse. Et encore une fois, le terrain de la communication, c'est aussi une arme qu'on a souvent tendance à sous-évaluer, mais particulièrement importante avec cette administration.
Ah bah voilà, on a répondu à la question. Oui, ça peut être efficace, déjà en termes de communication.
Tout à fait.
Et évidemment, en complément des actions menées par l'Union européenne.
Exactement. Si, encore une fois, les Européens sont unis.
Ah ben voilà, ça aussi c'est un chantier important. Merci beaucoup Anne-Sophie Alsif, chef économiste de BDO France, et Stéphania Santacreux-Vazu, professeur d'économie à l'ESSEC, et Édouard Rousset, merci beaucoup, en ligne avec nous, administrateur de la page Facebook Boycotté USA, déjà 18 000 abonnés. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat du jour, et à Hélène Avril à sa réalisation.
RFI.
Il est 18h58 ici à Paris, coup d'œil à la pendule, ça veut dire dans une minute, Diane Berger entre en studio, ce sera le grand journal du soir, et puis à 19h30, dans 30 minutes, ce sera la première édition d'Afrique Soir, avec ce soir Paul Lancin-Spinelli. Bonsoir Paul.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et quel programme ce soir Paul?
Avec à la une, à la fin de la tournée diplomatique du président du Ghana au sein de l'AES.
Après le Mali samedi et le Niger hier, John Dramani Mahama se déplaçait au Burkina Faso. Aujourd'hui, le chef d'État ghanéen s'était fixé pour objectif de rapprocher de la CEDEAO les trois ex-membres de la communauté économique ouest-africaine. Il souhaite que celle-ci reconnaisse l'alliance des États du Sahel. Au Tchad, le journaliste et correspondant d'RFI Olivier Monodji, arrêté mercredi dernier, a été inculpé aujourd'hui, notamment pour intelligence avec une puissance étrangère. Il a été placé sous mandat de dépôt. Et puis notre dossier du soir consacré au Soudan du Sud, de plus en plus proche d'une nouvelle guerre à grande échelle à cause des récentes violences entre le camp du président Salva Kiir et celui du vice-président Riek Machar.
Eh bien merci Paul Lanspinelli, on vous retrouve dans 30 minutes sur RFI, dans 30 secondes, c'est le grand...